Vous écoutez, on lit pour vous.
Éco-insensibilité. Une chronique d'Émilie Nicolas parue le 13 juillet 2023 dans Le Devoir. On oscille au Québec entre verglas, inondations, feux de forêt et smog depuis le printemps. Les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sur les impacts des changements climatiques, on ne fait plus que les lire, on les vit. Dans le contexte, il est plus que temps de changer de paradigme. Force est de constater qu'avec une planète en crise, il faudrait cesser de pathologiser l'éco-anxiété et plutôt concentrer nos efforts de recherche sur ce qu'il conviendrait d'appeler l'éco-insensibilité. L'être humain est après tout un mammifère dépendant de son écosystème comme le reste du vivant. La question qu'il faudrait se poser, c'est comment nos sociétés, nos cultures, nos économies, nos systèmes politiques en sont-ils arrivés à générer des individus aussi radicalement coupés de leurs liens naturels avec l'environnement? Comment arrive-t-on à ne pas réfléchir à la planète alors que le ciel est recouvert par un énième épisode de smog? Avant que j'aille plus loin, une mise au point s'impose. On a tendance, ici comme ailleurs en Occident, à ramener la sensibilité à son environnement dite éco-anxieuse à de l'éco-culpabilité. On se dit que les anxieux sont des personnes qui se sentent coupables de leur mode de vie polluant, de leur voyage, de leur choix de véhicule. On se demande si cette culpabilité est productive comme catalyseur de changement social. Sauf que cette culpabilité n'a rien à voir, a priori, avec la sensibilité dite éco-anxieuse. Pour le dire crûment, la culpabilité est un problème de riches. Ou, du moins, c'est un problème de société riche, qui sait très bien, dans ses moments de lucidité, sur le dos de qui et à quel prix se construit cette richesse et quels droits fondamentaux sont bafoués pour que ce mode de vie soit maintenu. Il est à peu près impossible, au Canada, de se sortir de cette économie construite sur les inégalités nord-sud et la destruction de l'environnement mondial, mais ne s'en sentent coupables que ceux qui s'en sentent complices. On peut se douter que bien des Innus de Manutenam, qui viennent de perdre leur pourvoirie dans les feux de forêt, en plus d'affronter le gouvernement du Québec sur la protection de l'habitat du caribou forestier, se sentent très inquiets par rapport à la santé de leur territoire ancestral. Je serais surprise d'apprendre qu'on s'y sent largement coupable de l'état des choses alors que la souveraineté sur les décisions qui concernent leurs terres y est un combat perpétuel. De même, on peut facilement imaginer que les agriculteurs de l'Amérique centrale ou les éleveurs du Sahel qui n'arrivent plus à nourrir leur famille de manière stable et prévisible vu les bouleversements climatiques et qui hésitent entre rester en vivotant ou prendre le risque de migrer vivent une forme ou une autre d'angoisse. Je ne pense pas, là non plus, qu'on se sente coupable. Est-ce que ces populations, c'est-à-dire la majorité de la population mondiale, qui subit le pire des changements climatiques tout en étant le moins responsable, sont même imaginées, prises en compte par nos théoriciens de l'éco-anxiété? Ou méprend-on la mauvaise conscience de la classe moyenne nord-américaine pour un problème humain universel? Mais revenons à l'éco-insensibilité. Elle semble possible à deux conditions. Premièrement, une personne éco-insensible est nécessairement une personne qui a perdu de vue le lien direct entre le reste du vivant et sa propre vie. Plus il y a d'étapes, par exemple, entre la production de notre nourriture et sa consommation, plus il est facile d'oublier d'où elle vient, de mal comprendre les conditions de son existence. Lorsqu'on vit en ville ou en banlieue, à peu près tous les objets qui font notre quotidien nous arrivent comme ça, un peu par magie, souvent de l'autre bout du monde, sans qu'on y réfléchisse. En bref, dans une économie mondialisée, nous sommes à peu près tous coupés de la relation causale directe entre notre environnement et notre bien-être, qui a été le lot de la quasi-totalité du genre humain durant des millénaires. Dans cette perspective, les personnes dites éco-anxieuses sont celles qui, à force de s'informer sur les changements climatiques et surtout de les vivre peu à peu, recommencent à faire des liens entre la planète et leur bien-être. Ces liens sont tout à fait normaux à l'échelle de l'histoire humaine. S'ils restent perçus comme étranges, voire maladifs, au sein de nos sociétés, c'est que ce sont nos sociétés elles-mêmes qui sont fort étranges, voire malades. Deuxièmement, on sait très bien qu'on a tendance à éviter les personnes et les situations qui génèrent chez nous un sentiment de honte et de culpabilité. C'est d'ailleurs une des clés de compréhension du phénomène de la procrastination. Si on se sent mal de ne pas avoir accompli une tâche à temps, le cerveau voudra la contourner, ce qui occasionne un retard encore plus grand. La culpabilité occidentale dont on parlait plus haut peut donc alimenter l'anxiété tout comme elle peut alimenter l'évitement, l'apathie apparente face à la question environnementale et la procrastination face aux réformes politiques qui s'imposent. Ce que la science nous dit, au fond, c'est que nos économies et nos modes de vie mènent au cataclysme. En termes de remise en question, c'est beaucoup à digérer. Et il ne faut jamais sous-estimer la capacité de l'humain, surtout lorsqu'il se sent menacé, à protéger son ego plutôt que le bien commun. Le collègue Alexandre Shields, journaliste aux dossiers environnementaux au Devoir, présente régulièrement sur les médias sociaux un résumé de la haine qu'il reçoit pour son travail. La force avec laquelle certains lecteurs s'enfoncent dans le déni du réel serait surprenante si on ne savait pas qu'il est tout à fait humain de réagir aussi viscéralement à de simples faits, lorsqu'on reçoit ces faits comme une attaque contre sa personne et tout son univers de sens. C'était « Éco-insensibilité », une chronique d'Émilie Nicolas, parue le 13 juillet 2023 dans Le Devoir.
Important pour les soins de plaie prodigués aux personnes en situation de handicap. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Moelle épinière et motricité Québec souligne un gain important qui aura, nous l'espérons, de nombreux impacts dans l'accès aux soins de santé qui tiennent compte des besoins particuliers des personnes en situation de handicap et surtout des personnes lésées médulaires. En juin dernier, nous avons obtenu l'ouverture d'une enquête publique qui fera la lumière sur les circonstances ayant mené au décès de Normand Meunier. Rappelons que M. Meunier, tétraplégique, avait développé une plaie de pression lors d'un séjour à l'urgence de l'hôpital de Saint-Jérôme en janvier dernier. Il est décédé en mars à la suite de ses plaies. Cette enquête publique a pu être obtenue grâce à la détermination de Sylvie Brosseau, sa conjointe, et de celle de Mémo QC, qui ont su alerter les décideurs publics et les médias pour faire pression sur le gouvernement. Cette victoire est ainsi le résultat de nos nombreuses démarches effectuées auprès d'élus de tous les partis. De plus, nous avons multiplié les collaborations avec de nombreux médias. Une revue de presse est disponible sur le site de Mémo QC. « On continue le combat », dit Sylvie Brosseau, conjointe de feu M. Meunier. Pour que la tragédie qu'ont vécu Normand Meunier et sa famille ne se reproduise plus jamais, une pétition pour l'accès et la consolidation des soins de plaie de pression pour personnes lésées médulaires a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale le 20 septembre. Nous comptons sur vous tous pour la signer et la diffuser largement. C'était un gain important pour les soins de plaie prodigués aux personnes en situation de handicap. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad.
Le manifeste Yaka, un texte de Robert Zajtmann, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique. À la veille de prendre de longues vacances, il m'a semblé raisonnable de ne pas partir en vous laissant les mains vides. Voici donc une chronique qui, durant mon absence, devrait vous donner matière à réflexion. Au début du siècle dernier, le mouvement dadaïsme prenait forme sous l'impulsion de quelques intellos et artistes désireux de rompre avec l'ordre établi. Ce beau monde remettait en cause les conventions et toute forme de contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. De cette réaction anti-établissement de l'époque, un manifeste dada, signé par Tristan Tzara, sortit. Quelques années plus tard, toujours au XXe siècle, un autre manifeste, le Refus global, fruit d'une réflexion d'artistes du groupe des automatistes, dont Paul-Émile Bordua et Jean-Paul Riopel faisaient partie, vit le jour. Le texte remettait en question, tout en les rejetant, les valeurs traditionnelles de la société québécoise en faveur d'une vision plus universelle et plus moderne. Un peu moins d'un siècle plus tard, j'estime absolument nécessaire, histoire de nous sortir du marasme existentiel dans lequel nous nous trouvons, de rédiger à mon tour un bref manifeste qui n'a rien à voir avec ceux cités préalablement. Ce que je propose ici n'est ni plus ni moins qu'un futile exercice me permettant de perdre mon temps en faveur d'aucune bonne cause dont vous avez le droit de questionner l'utilité. Ma démarche, gratuite en apparence, mérite quelques précisions. Des années durant, par crainte de me faire rabrouer, j'ai tenté d'éviter les sujets qui auraient pu prêter à controverse. Que ce soit dans les réunions de famille ou lors de réceptions auxquelles j'étais invitée, ma tendance consistait à parler de la pluie et du beau temps, évitant ainsi de me mouiller, même les jours d'intempéries. Ma devise? Mieux vaut manquer d'intérêt si cela rapporte. M'a longtemps servi de guide. Pas question, donc, de secouer le cocotier. Déjà très jeune, mes parents et mes instituteurs ne cessaient de me répéter à longueur de journée « Peux-tu rester tranquille? » J'ai cru bon d'obéir. Leur besoin d'ataraxie valait bien ce sacrifice. Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Je tiens à m'affirmer. Au risque d'être mis au pilori, je me sens prêt à aborder des sujets sensibles, délicats. Non sans fierté, j'ose dorénavant prendre les patates chaudes à pleine main sans me préoccuper du lendemain. Mon changement d'attitude, ma transformation, m'ont poussé à sortir le manifeste qui suit. Œuvre unique en son genre. Je proclame solennellement la création du mouvement Yaka, une entité à but non lucratif chargée de simplifier la vie des gens. Pour ce faire, Yaka propose l'utilisation automatique de la locution nominale Ya, Y-A, K-Q-U apostrophe A accent grave, en tant qu'outil de dépannage dès l'apparition de difficultés a priori insurmontables. Yaka propose des solutions en tout temps, à tout moment. Quand bien même vous ne savez pas comment vous en servir, Yaka est là pour vous servir. Exemple concret très canadien. Vous ne voulez pas que Pierre Poilievre devienne premier ministre? Yaka croise les doigts pour qu'il ne passe pas. Vous voyez? C'est aussi simple que cela. Vous ne voulez plus entendre parler de Donald Trump? Ce n'est pas compliqué. Yaka l'enfermer pour qu'il la ferme. Vous désirez mettre fin au conflit russo-ukrainien? Employer les grands moyens? Il n'y a qu'à demander à Poutine d'écouter Mozart et non Wagner. La crise du logement? Il n'y a qu'à loger les sans-logis. Le mouvement YACA est un remède indispensable face à toutes sortes de casse-têtes. Il est très YACA aussi d'utiliser YA en cas d'excès de YACA. D'autre part, si vous n'arrivez pas à trouver chaussures à votre pied, ce n'est pas grave. Il n'y a qu'à marcher pieds nus. Vous n'arrivez pas à remettre les pendules à l'heure? Pas de souci. Il n'y a qu'à vous trouver un passe-temps. Ce document ne remet rien en cause et, globalement, ne se refuse aucun plaisir. Il représente la volonté d'une partie de la minorité invisible de ne rien entendre, de ne rien dire et de ne rien voir avant de franchir, décoiffé sur le fil d'arrivée, l'ultime étape précédant le jugement dernier. Son intention ne se veut pas méchante, mais souffre d'un besoin ludique de se faire valoir. Il ne désire offenser personne et se donne le privilège de n'être associé à aucun des candidats à la prochaine élection du futur souverain pontife. Qui dit « YACA » devient, sans le savoir et sans en avoir fait la demande, membre à part entière du mouvement YACA. Il n'y a qu'à bien se tenir et surtout bien réfléchir avant de s'inscrire. Je dois maintenant plier bagages jusqu'au 22 août. Au cas où vous vous poseriez la question, non, ce document n'a pas été rédigé sous l'effet de l'alcool ou de toute autre substance hallucinogène. C'était le manifeste YACA, un texte de Robert Zajdman, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique.
Nuance queer. Des histoires de vécu de personnes queer. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 31 mai 2024 dans le magazine Fugue. Sylvain Rolandeau, le fondateur illustrateur de Au Monde Doux, dont vous avez sûrement déjà vu les œuvres, s'est commis dans une autre sorte de projet depuis 2022. Dans le cadre du programme Champion communautaire, avec la collaboration de l'organisme Réseau, il a créé une série de portraits illustrations animations en 3D sur Instagram intitulée Nuance Queer, des témoignages de personnes queer. Samuel Larochelle, notre collègue journaliste et auteur de plusieurs bouquins, entre autres Calamine, la rappeuse queer et engagée, Charlie Morin, un jeune humoriste queer, et Kiss a Ring, membre des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Champion communautaire est un programme de micro-subventions mis en place par Réseau pour les hommes LGBTQ, gays, bisexuels, trans et queer, avec pour objectif de faciliter leur accès aux soins de santé, augmenter leur capacité à prendre en charge leur santé globale, ainsi que de développer les connaissances en santé globale de ces hommes-là. Sylvain Rolandeau a été accepté à ce programme en 2022 et travaille sur ce projet depuis ce temps-là. Nuance Queer est une série de portraits de personnalités queer dans le but de partager des histoires personnelles qui peuvent résonner auprès des gens pour qu'ils se sentent moins seuls et les diriger vers des services de réseau s'ils ont besoin d'aide, explique Sylvain Rolandeau, qui, au moment de le rencontrer, venait de participer au Festival Jouissif de Montréal. Chacune de ces personnes raconte une histoire, un vécu, des anecdotes qui leur sont propres, des situations d'homophobie, de relations avec la famille, des problématiques de consommation, de sexualité. Leur succès et les nombreuses embûches que ces personnes ont réussi à surmonter dans leur vie et leur vécu queer.
rajoute Sylvain Rolando. Mais comment a-t-il choisi ces personnes-là? Parfois, cela a été le fruit du hasard, comme la rappeuse Calamine, qu'il a rencontrée dans un café de Schlaga Maisonneuve et qui a bien voulu se confier, ou encore l'humoriste Charlie Morin, dont il a fait la connaissance lors d'un des mini-congrès Smash de Réseau. Je mène une conversation enregistrée de près de 2 heures avec chaque personne. Ensuite, j'écris le texte. Je le découpe selon des thèmes pour en tirer la matière dont je veux parler, et ensuite je dessine la personne pour la présentation sur Instagram, de décrire cet artiste originaire de Marseille. Sylvain Rolando, artiste illustrateur, a eu recours à une autre illustratrice et animatrice queer du nom de Mélie Keo, qui a pratiquement fait ici du mentorat et l'a guidée dans son travail d'animation 3D. Quant à la musique, elle a été composée par Jean-Michel Blais, un musicien queer montréalais dont la trame convenait très bien avec mes œuvres, dit-il. Pour le visuel, il s'est inspiré de ce que l'on appelle l'école de l'art nouveau, particulièrement de l'artiste tchécoslovaque Alphonse Moucha, et qui contestait les normes de l'art établi. Pour moi, l'art nouveau fitait très bien ici. J'ai mis beaucoup de couleurs dans les nuances des vécus et la 3D. Cela donnait un autre aspect plus queer, je crois. À noter que des affiches des personnages seront sur place, sur l'esplanade du Stade olympique, au kiosque de Réseau durant Fierté Montréal. Pour l'instant, il n'y a que ces 4 personnages queer. Mais j'ai envie de continuer, de ne pas arrêter, de faire d'autres entrevues, d'autres portraits et d'autres histoires qui sont parfois relayées par fugue aussi. Je suis très ouvert à rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement dans la sphère médiatique queer. Mais il va falloir faire de la recherche de subventions parce que je ne peux plus continuer à le faire bénévolement en ce moment. Mais c'est très intéressant à explorer encore. À vous, Sylvain Rolando. C'était « Nuance queer, des histoires de vécu de personnes queer », un texte d'André Constantin Passiour, paru le 31 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Les obstacles et les solutions à l'accès à une saine alimentation pour les personnes en situation de handicap et les personnes vivant des situations de vulnérabilité, notamment les personnes à mobilité réduite. Un texte de Julie Sansfaçon, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. La saine alimentation est une thématique qui, en 2023, est au cœur des préoccupations des personnes en situation de handicap. D'emblée, l'alimentation est le véhicule de nos succulentes saveurs d'enfance et le vecteur d'une santé de fer. En contrepartie, elle représente beaucoup de travail. Les aliments, il faut les trouver au bon prix et au bon endroit. Il faut ensuite les transporter, les entreposer, les apprêter et les conserver. Pour toute personne, ce mandat est déjà de taille. Si on y ajoute l'inflation, un hiver rigoureux, un parcours migratoire précaire, être victime de violences conjugales ou intrafamiliales et un manque de soutien à domicile, cette tâche devient alors périlleuse pour y arriver sans mettre notre intégrité physique et financière en danger. En 2023, les embûches sont toujours nombreuses. Étagères des supermarchés trop hautes ou déjà vidées de leur contenu par des clients plus rapides, montagnes de vaisselle à faire et portefeuilles dégarnis pour acheter ce qu'il faudrait. De tels obstacles sont contraires à ce qui devrait être au cœur de notre sécurité alimentaire. Des ressources alimentaires accessibles et adaptées. L'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap est un comité consultatif composé de personnes en situation de handicap et de partenaires dynamiques et engagés, dont Centre Paul Roulant, Def Fils sans limite et la Commission des ressources humaines des Premières Nations du Québec, pour ne nommer que ceux-là. En 2022, c'est ce déficit d'options qui a incité l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap à mettre sur pied un projet novateur, les Sentinelles du garde-manger. La mise en œuvre des Sentinelles du garde-manger met en lumière les besoins les plus criants et les solutions les plus impératives. Entre autres, ce projet inclut un site Internet et une cartographie interactive, Ressources Aliments Accès, qui répertorie des organismes offrant des services d'aide alimentaire, la livraison de denrées alimentaires adaptées et accessibles, ainsi que des services psychosociaux dans la grande région de Montréal. Un service complémentaire, Inter-Aidance, offre un aiguillage et un référencement vers des programmes et services accessibles et adaptés. Pour en savoir davantage au sujet des Sentinelles du garde-manger, je vous invite à visionner notre vidéo sur le site Internet Ressources Aliments Accès. Ce projet propose une passerelle vers des ressources et solutions, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Un engagement durable et concret au niveau politique, économique et social, de la part de la communauté qui nous entoure, est toujours le nerf de la guerre. Puisque j'entame un nouveau chapitre de ma vie vers une mobilité plus réduite, j'attends cet engagement de pied et de roue ferme. Je m'y engage à titre professionnel et personnel, car c'est en travaillant ensemble que nous créerons des liens de solidarité dans le but de bâtir des communautés en santé, sécuritaires, égalitaires et inclusives. C'était « Les obstacles et les solutions à l'accès à une saine alimentation pour les personnes en situation de handicap et les personnes vivant des situations de vulnérabilité, notamment les personnes à mobilité réduite », un texte de Julie Sansfaçon paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paracouage.